imaginez-vous donc les gens qui achetaient des billets papier. Nous, il fallait imprimer les billets, les mettre dans une enveloppe et les envoyer à tout le monde. C'était une tâche hallucinante qui demandait beaucoup de temps, d'énergie, d'argent et qui n'était pas efficiente du tout. Donc maintenant, on peut envoyer des billets par courriel. Ils ont simplement permis de le faire et ça a pris des représentations. Mais pour nous, ça a changé vraiment là, les choses parce qu'on est parti de 24 000 billets vendus en ligne en 2019. Puis là, maintenant, cette année, là, on dépasse le 1,1 million. Là.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 102e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. On a l'opportunité aujourd'hui sur Hypercroissance de mettre en lumière deux accomplissements qui méritent mention. De un, on fait découvrir aux gens qui ne connaissent pas encore l'entité, Opération Enfant Soleil, un organisme qui a chaque année depuis 34 ans maintenant, amasse des fonds pour les enfants malades. Et de deux, on va discuter avec leur présidente afin qu'elle nous raconte comment les 365 derniers jours ont été les plus fastes depuis leur création. Plus précisément, on parle de 20,5 millions de dollars amassés dans les 12 derniers mois. Julie Lemieux, qui est à la tête de l'organisation depuis 2019, a pris une bonne trentaine de minutes avec nous aujourd'hui afin de nous expliquer comment ils ont fait les choses différemment dans la dernière année afin de continuer à amasser des dons importants même en période de pandémie. On est très heureux également de mentionner que J7 Media est maintenant partenaire officiel de Opération Enfant Soleil. Sans plus attendre, ma discussion avec Julie Lemieux. Julie Lemieux, vous êtes présidente et directrice générale de la fondation Opération Enfant Soleil, un organisme qui a vu le jour en 1987. Au cours des 34 dernières années, c'est plus de 273 millions de dollars qui ont été amassés afin d'aider les jeunes patients malades. De fil en aiguille, vous avez amélioré vos manières de faire afin d'atteindre en 2021 un record de dons amassés pour une seule année. Julie Lemieux, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci à vous.
Et Julie, avant de rentrer dans la conversation du jour, est-ce qu'on va regarder un petit peu ensemble comment vous avez, dans les dernières années, accéléré un petit peu l'exposition, la visibilité d'Opération Enfant Soleil? Peux-tu expliquer à l'audience qui peut-être qui ne le saurait pas, qu'est-ce que Opération Enfant Soleil?
Absolument, avec un grand plaisir. Opération Enfant Soleil va exister l'an prochain depuis 35 ans, donc on va vraiment fêter notre 35e anniversaire en 2022 et on prépare plein de belles activités en ce sens-là pour souligner l'événement. Ça a été créé à Québec en 87, comme vous le disiez, par le Centre hospitalier universitaire de Québec qui était en fait qui a voulu s'inscrire dans la foulée du premier téléthon de Jerry Lewis. Peut-être que vous êtes un petit peu jeune pour vous souvenir des téléthons de Jerry Lewis, mais les plus vieux vont reconnaître. Ça avait été un grand succès à l'époque, la première édition, et tous les autres centres hospitaliers du Québec par la suite se sont greffés à Opération Enfant Soleil. Et l'objectif, c'est d'amasser des fonds pour offrir une pédiatrie de qualité partout au Québec pour les enfants malades. Donc, on aide au financement de projets d'infrastructures, d'équipements, de programmes spécialisés aussi pour améliorer les soins, pour adapter les soins aussi aux enfants dans les grandes villes, mais aussi dans toutes les régions du Québec. Et on aide aussi à la construction de lieux plus conviviaux pour permettre aux enfants de passer des séjours un petit peu plus agréables malgré tout quand ils vont à l'hôpital.
Puis, je crois que tu as commencé ton travail avec Opération Enfant Soleil à l'été 2019. Donc, ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant que tu as pris les rênes de l'organisation. Es-tu capable de me dire au moment que tu as pris les rênes de l'organisation, quels ont été les chantiers que tu t'es dit, tu sais quoi, moi, je vais essayer d'améliorer cette partie-là de l'entreprise. Qu'est-ce que tu as vu comme peut-être enjeu que tu devais de résoudre dans les mois qui allaient suivre?
Ben, quand je suis arrivée à l'époque où, en continuité, en fait, d'un plan stratégique qui avait été mis en place par ma prédécesseure. Puis, déjà, elle avait apporté plusieurs changements à l'organisation pour moderniser, dans le fond, les façons de faire aussi. Il y avait eu une grande réflexion autour du Téléthon, sur la durée du Téléthon, la mouture, tout ça. Il y avait aussi une volonté d'être plus présent auprès des donateurs. On avait doté l'organisation de meilleurs outils technologiques aussi, ce qui nous a beaucoup servi quand la crise est arrivée avec la pandémie. On voulait être plus présent dans les entreprises également. Donc, on avait créé un programme à l'époque qui s'appelle l'Entreprise Enfant Soleil, qui existe encore évidemment, et on voulait le faire grandir. Donc, moi, quand je suis arrivée en 2019, je me suis familiarisée d'abord avec tout ça parce que c'est une organisation qui est très complexe. Là, ça a l'air simple comme ça, amasser des fonds pour les enfants malades, mais une fois qu'on a dit ça, il y a beaucoup de ramifications dans cette organisation-là. Donc, dans les premiers mois, oui, j'avais une volonté d'augmenter les revenus. Évidemment, c'est toujours ça l'objectif. J'avais une volonté de continuer dans la lancée là, de ce plan stratégique-là, mais j'avais besoin aussi de bien comprendre là, comment œuvrait cette organisation-là sur le terrain. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, est arrivée la pandémie. Donc, en quelques mois seulement, ça a été là, vraiment toute une aventure de revirer ça de bord. Et moi, ça m'a permis finalement de mettre en place des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu faire là, autrement. Donc, ça a été pour moi un atout, je dirais, de pouvoir arriver en crise. Moi, j'aime ça quand c'est compliqué en plus, donc j'ai été bien servie. J'ai pu résoudre plusieurs problèmes, puis on a travaillé sur différents enjeux, différentes idées qui étaient sur la table depuis un certain temps, puis ça a été finalement un succès.
Peux-tu me parler un petit peu de ces idées-là, ces travaux-là que tu avais peut-être à mettre un petit peu plus de temps pour être certain que l'organisation continue à grandir?
On voulait maximiser les revenus du Téléthon et diminuer les coûts parce que ça reste un gros show télé. Hein? Ça reste vraiment, c'est majeur. Donc, c'était l'objectif dès mon arrivée. Et puis, ben là, quand est arrivée la pandémie, cette année-là, il a fallu faire un show à distance complètement. On a diminué les heures, tout ça. On a testé d'autres façons de faire qui sont restées en partie pour la deuxième année. Mais ça a permis de rebrancer les cartes par rapport aux coûts du Téléthon puis par rapport à ce qui fonctionnait aussi auprès des gens. Donc, on a changé, ça nous a permis aussi de changer de lieu parce que c'était à Exposité, qui est un lieu bien correct, mais on trouvait que ça manquait un petit peu d'âme, ce lieu-là. Donc, pendant la pandémie, on le fait à distance, mais cette année, on le fait au Capitole de Québec. Donc, c'est plus petit, moins coûteux, plus chaleureux. Je pense que le résultat aussi a été très important. Il y a eu tout l'aspect de la tournée régionale on fait une tournée des régions pour faire une reddition de comptes à chaque année. On fait des conférences de presse dans toutes les régions du Québec pour annoncer les dons qu'on a amassés et qu'on redonne aux hôpitaux. Ça se faisait beaucoup en personne. Pendant la pandémie, on le fait à distance. L'année passée, on pensait pouvoir le faire en personne. Ça a été encore à distance cette année. Mais on a fait des capsules vidéo qui ont été un grand succès. Fait que ça, c'est des choses qui vont rester aussi, qui nous permettent d'économiser les sous, mais en même temps, tu sais, de pouvoir faire les choses quand même, de faire la reddition de comptes sur le web. Puis là, cette année, on travaille une formule hybride, mais tu sais, c'est des choses aussi qui sont restées. Puis je pense que le plus grand succès, ou en tout cas la plus grande révolution qu'on a faite, c'est avec les tirages. Moi, j'ai convaincu la RACJ, là, de la régie d'alcool des jeux, de pouvoir envoyer des billets de tirage qui étaient achetés en ligne par courriel, parce que avant, imaginez-vous donc les gens qui achetaient des billets papier, nous, fallait imprimer les billets, les mettre dans une enveloppe et les envoyer à tout le monde. C'était une tâche hallucinante qui demandait beaucoup de temps, d'énergie, d'argent et qui était pas efficiente du tout. Donc, maintenant, on peut envoyer des billets par courriel. Ils ont simplement permis de le faire et ça a pris des représentations. Mais pour nous, ça a changé vraiment là les choses parce qu'on est parti de 24 000 billets vendus en ligne en 2019. Puis là, maintenant, cette année, là on dépasse le million point un là, en argent. Donc, en fait, plutôt 115 000 billets, mais 1 million de dollars. Donc, c'est vraiment un grand succès. C'est des choses qu'on voulait faire, depuis des années, la loterie en ligne développait ça, puis la pandémie nous a permis de le faire aussi.
Intéressant. Puis, tu en as parlé brièvement, Téléthon, tirage d'une maison. Je pense que c'est deux de vos grosses initiatives dans l'année pour aller amasser des dons. Je reviendrai par contre au Téléthon. Beaucoup de gens ont déjà vu à quoi que ça ressemblait, mais es-tu capable de nous parler un petit peu des coulisses, de l'organisation d'un événement du genre? Parce que ça a l'air d'être massif, très long comme préparation. Parle-nous un petit peu de comment ça se déroule tout ça.
Oui, ben en fait, le Téléthon, c'est le point culminant de l'année pour nous. Les gens pensent qu'on fait juste un Téléthon puis qu'on fait juste ça dans l'année, mais on fait des levées de fonds, nous, à l'année longue. Hein. Il y en a un peu partout au Québec, tout ça. Et c'est au Téléthon qu'on annonce le résultat de toutes ces levées de fonds-là qui ont lieu pendant l'année. Donc, il y a une collecte de fonds pendant le Téléthon, mais il y en a pendant toute l'année aussi. Donc, on a une grosse équipe là, qui travaille à la préparation de tout ça. Le Téléthon, c'est une façon aussi de faire une reddition de compte auprès de nos donateurs. Voici ce qu'on a fait avec l'argent que vous nous avez donné. Voici en quoi c'est important pour les enfants. Et le Téléthon, ben on le prépare à l'année finalement. Donc, à peu près tout le monde dans l'équipe travaille au Téléthon de près ou de loin. Donc, c'est vraiment, ça accapare beaucoup d'énergie, mais c'est un beau projet aussi à chaque fois. Moi, j'ai un cadre à temps plein, une VP à temps plein qui s'occupe du Téléthon. Mais c'est aussi pour nous une superbe vitrine parce que ça nous donne un rayonnement de la cause qui est assez unique au Québec. Là, on est un des derniers Téléthons qui existent. Même au Canada, il n'y en a plus beaucoup. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir ça. La production comme telle du show télé commence plus après les fêtes, mais on a eu même une réunion cet été là, pour réfléchir à l'année prochaine. Donc, ça vous donne une idée de comment ça se fait à l'avance. Peut-être statistiquement parlant, là, on a 65 bénévoles au Téléthon, 304 téléphonistes. Puis ça a été une révolution aussi. Depuis 2 ans, on a un centre d'appel à distance. On a été obligé de se revirer de bord à la dernière minute parce qu'il ne pouvait pas avoir de rassemblement de centre d'appel dans les centres d'appel. Donc, maintenant, on a une technologie nouvelle là, qui nous permet de prendre des appels à distance. On a 80 artistes qui nous accompagnent à travers cet événement-là, 37 prestations artistiques. On a 115 techniciens qui travaillent à la production, 10 caméras. C'est un gros show télé quand je vous dis, c'est vraiment comme impressionnant de voir ça. On diffuse 140 vidéos pendant le Téléthon. En tout cas, cette année, ça a été ça. 60 fournisseurs en biens et services, 30 heures de répétition à Montréal et Québec aussi en amont, puis 4 jours de montage. Donc, c'est vraiment un gros spectacle, mais qui donne des résultats incroyables pour la cause, parce que ça permet aussi non seulement de parler d'opération Enfant Soleil, mais aussi de mettre l'accent sur ce que vivent les enfants malades un peu partout au Québec. Je pense que c'est vraiment important de le faire au moins une fois par année.
Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui regardent le tout, hein, parce que c'est ça, vous arrivez à mixer une cause qui est tellement noble à un show qui est intéressant à regarder. Tu sais, il y a des super bons artistes, il y a des belles prestations qui sont faites pendant l'événement en soi. Donc, c'est intéressant de pouvoir voir qu'on est capable de mixer les deux ici. Puis je serais curieux que tu puisses nous parler un petit peu. On a parlé de Téléthon, t'as mentionné également des levées de fonds à l'année. À quoi que ça ressemble un petit peu, ce travail-là quotidien que vous devez faire à chaque mois pour aller chercher un petit peu plus de fonds en dehors des événements ponctuels qu'on connaît, comme le Téléthon, également le tirage de la maison que vous avez fait très récemment?
Ben en fait, c'est monsieur, madame, tout le monde hein, qui peut organiser des événements au profit d'Opération Enfant Soleil. Donc, ça peut partir d'un barbecue familial où on amasse des fonds pour la cause, puis ça va jusqu'à Walmart et Costco qui font des grandes levées de fonds, Family Prix, Remax, qui font des grandes levées de fonds pour nous année après année. Donc, il y a des tout petits partenaires qui sont aussi importants pour nous que les grands partenaires aussi. Donc, ça prend des gens pour répondre aux besoins de ces partenaires-là. Donc, les gens nous appellent pour dire, ben j'aimerais organiser quelque chose. Donc, nous, on a des employés chez nous qui les accompagnent à travers ça. Mais on a aussi des employés qui accompagnent des grandes compagnies qui nous font des levées de fonds pour s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, en termes de matériel de promotion aussi, en termes d'accompagnement en tout genre. Là, donc, c'est vraiment, on a créé avec le temps une proximité avec nos partenaires qui est assez exceptionnelle, puis qui a été un grand avantage pour nous quand est arrivée la pandémie aussi, parce qu'ils sont restés branchés sur la cause, aussi à cause de ce lien-là qu'on a créé. Mais ça prend du temps, tout ça. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais ça prend aussi beaucoup de créativité. Donc, on est toujours ouvert aux nouvelles façons de faire, aux nouvelles collectes de fonds. Donc, on en imagine. Récemment, on a fait le Grand Fondo, qui est une espèce de course de vélo intérieur, là, qui est très en ligne, là, tout ça, qui est très tendance. Puis, on a réussi aussi avec ça à aller chercher des fonds très intéressants. Puis, à chaque fois, les partenaires embarquent avec nous. Fait que c'est ça qui est merveilleux. Là.
Mmh. Puis, parlant de partenaires, de gens qui veulent amasser des fonds, je recevais récemment sur le podcast Dominique Brown, le président de Chocolat Favori, qui a pris l'initiative cette année avec sa famille de faire le tour en Amérique. Là, il va à plusieurs endroits spécifiques en bateau avec sa famille pendant un année de temps. Il continue à travailler. Il fait également des vidéos avec sa famille et chacun de ces vidéos-là, pour y avoir accès, ben, c'est relié à un don et tout l'argent amassé va à Opération Enfant Soleil. Question que je te pose maintenant, des initiatives de gens qu'on pourrait quasiment appeler des influenceurs, des porte-paroles. comment ça se matérialise tout ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, des personnalités connues qui viennent voir? Et peut-être même, ça me donne une idée des créateurs de contenu. Donc, on fait un podcast aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent. Également, est-ce que moi, mettons à un certain point, je pourrais dire, ben le podcast Hypercroissance, on tente d'amasser des dons pour Opération Enfant Soleil. Est-ce que des dynamiques comme ça qui s'inscrivent un petit peu pour des gens qui travaillent avec vous?
Tout à fait. On est ouvert à tout. Puis, on a nous-mêmes des idées. Parfois, c'est nous qui approchons les partenaires. Parfois, c'est des partenaires ou des gens comme vous qui peuvent nous approcher pour nous communiquer des idées. Puis, on va les aider à ce moment-là à les développer. Dominique Brown, c'est un bon exemple. Je connais Dominique depuis plusieurs années. Quand j'étais à la Ville de Québec, on avait collaboré ensemble à certains projets. Puis, quand je suis arrivée, c'était un de mes objectifs de le convaincre de s'associer à notre cause. On trouvait qu'il y avait un fit parfait. Ça n'avait pas pu fonctionner. Puis, je sais que mon équipe aussi avait tenté par le passé là, de faire des approches. Puis c'est pour toutes sortes de raisons, ça n'avait pas pu fonctionner. Mais Dominique avait gardé ça en tête en se disant, un jour, je vais arriver avec une idée particulière parce que faut être créatif, faut être innovateur. Il est arrivé avec cette idée-là, puis ça a été wow, OK, parfait, on embarque, c'est merveilleux, puis c'est un grand succès, cette initiative-là. Puis ça va mener à autre chose aussi par la suite. Donc, on est là pour ça, en fait. C'est ce qui fait la force d'Opération Enfant Soleil et c'est ce qui nous a permis, je pense, de nous maintenir pendant 35 ans. C'est justement notre capacité de nous adapter, d'innover, de créer des nouvelles façons de faire. Puis même pendant la pandémie, toutes nos activités de levée de fonds ont dû être annulées parce que nous, on faisait beaucoup de regroupements. Bien, on a tout revu ça. Puis on a réussi à faire quand même un téléthon, ce qui a été la décision que je pense qui a été la plus importante là, des dernières années. On a fait quand même un téléthon, même si on se faisait dire que c'était pas nécessairement une bonne chose. Puis finalement, tout le monde était d'accord après pour dire que c'était la chose à faire. Donc, on innove. Puis on est résilient autant que les enfants le sont, les enfants malades le sont tellement au quotidien que c'est notre inspiration aussi.
Ah, définitivement, c'est très noble, encore une fois, je le répète, tout ce qui se déroule et tous les efforts, les initiatives que vous faites de votre côté. J'aimerais continuer à parler un peu d'Opération Enfant Soleil, mais un petit peu plus de toi personnellement. À quoi ça ressemble ton travail au jour le jour, quotidiennement? Qu'est-ce qu'une dirigeante, qu'est-ce que la directrice d'Opération Enfant Soleil doit faire pour s'assurer que l'organisation continue à avancer dans la bonne direction?
Ben, écoute, moi, je suis un peu le chef d'orchestre de tout ça. Je suis un peu le capitaine comme Dominique Brown sur son bateau. Donc, je pilote mes équipes, mais j'ai un comité de gestion extrêmement solide qui est là pour la plupart d'entre eux, là, sont là depuis très, très longtemps. Donc, ils connaissent très bien l'organisation. J'ai des employés aussi qui sont fantastiques, là, qui sont aussi là. On est une équipe assez serrée. Plusieurs sont là depuis longtemps aussi. Puis, on a des jeunes aussi qui arrivent avec leurs idées nouvelles, puis c'est parfait. Donc, moi, j'ai la chance de gérer une équipe hallucinante là, qui a le cœur sur la main, qui est là pour la cause, qui est toujours là pour se dépasser. Fait que moi, je suis là pour donner les orientations finales, oui, mais je donne beaucoup quand même de latitude à mes équipes là, pour qu'ils soient capables d'innover, d'inventer, de créer avec leur expérience, leur bagage. Je suis là pour faire le lien aussi avec le conseil d'administration. Donc, j'ai un conseil d'administration de 20 personnes là, qui est très solide, très fort, qui nous guide aussi dans nos décisions. Donc, moi, je suis leur intermédiaire. Je fais les contacts avec les hôpitaux aussi pour nous assurer qu'on répond bien à leurs demandes là, en compagnie de mon équipe aussi. Je suis la porte-parole, évidemment, de l'organisation. Puis j'aide aussi à développer des partenariats. Je parlais de Dominique, mais ça peut arriver aussi que j'ai un réseau de contacts quand même intéressant parce que j'ai fait de la politique, j'ai été journaliste pendant 17 ans, donc j'ai un réseau varié. Puis j'essaie de m'en servir aussi là, pour ouvrir des portes de temps en temps. Donc c'est beaucoup de gestion de ressources humaines quand même parce qu'on est une assez grande équipe, une équipe fantastique, mais qui a quand même aussi parfois des enjeux de ressources humaines à gérer. Puis c'est ça, c'est de la vision, mais en équipe. Là. C'est vraiment un beau travail d'équipe, cette organisation-là.
Puis tu le disais, ton rôle, c'est d'architecturer un petit peu le tout et force est d'admettre que ça l'a bien fonctionné dans la dernière année parce que je l'ai dit en introduction, année de record.
Oui.
Ce qui explique que... Je sais pas, cette année, peut-être plus de Québécois se sont portés à la cause, peut-être plus d'organismes ont été sensibilisés à la cause. Qu'est-ce qui, selon toi, explique le succès des 365 derniers jours?
Ben, je pense, je disais tout à l'heure que le fait d'avoir tenu le Téléthon en pleine pandémie en 2020, ça a été le grand événement des deux dernières années là, qui a fait qu'on s'est maintenu, on a maintenu notre place dans le cœur des Québécois. Si on avait été absent, si on avait décidé de dire oh non, on peut pas faire de Téléthon, puis dans ce temps-là, faut se souvenir que c'était plusieurs personnes âgées mouraient dans les résidences, tout ça, c'était pas facile de ce qu'on vivait. Fait qu'arriver avec les enfants malades, c'était moins dans l'air du temps, puis plusieurs se sont posé des questions par rapport à ça. Moi, j'étais convaincue qu'il fallait foncer, puis on l'a fait, puis ça a été, je pense, déterminant. Parce que si on avait laissé notre place à d'autres ou si on avait baissé les bras dans l'adversité, ben je pense pas que les gens, ben en fait, ils nous auraient peut-être oubliés, puis ça nous a permis de démontrer à quel point on voulait, on continuait d'être présent, puis qu'on tenait à la cause des enfants, puis ça a permis de parler de la cause aussi à la télé dans un moment où tout le monde était à la télévision aussi à cause de, à cause de la pandémie, effectivement. Donc, ça a été vraiment important pour les revenus. Puis ça a été une année extraordinaire aussi l'année passée. Cette année, je pense que le message qu'on a utilisé aussi pendant tout au long, depuis 2 ans, là, on a modulé beaucoup notre message aux donateurs. On a gardé le contact avec nos donateurs. On n'a jamais été dans la noirceur ou trop dans l'urgence ou dans la culpabilisation ou quoi que ce soit. On est resté soleil. Je dis souvent ça, on est soleil, on reste soleil. On est lumineux, on perd d'espoir. Puis ça, je pense que ça a bien passé. Les enfants ont besoin de nous malgré la situation. Il faut être là pour eux. T'sais, on leur a dit, maintenant, on sait c'est quoi le confinement, hein, mais il ne faut pas oublier que les enfants malades, eux autres, ils sont confinés parfois à longueur d'année. Donc, c'est vraiment un message qui a bien passé aussi. Fait qu'il y a le message. Puis, je pense que le fait justement d'avoir créé des contacts avec nos partenaires pendant toutes ces années-là, d'avoir été extrêmement présents auprès d'eux, ben ils nous l'ont bien redonné. Donc, ils sont restés présents avec nous. Puis, on s'est serré les coudes. Puis, je pense que ça a été ça. C'est toutes sortes de petites choses qui ont fait que ça a été un succès, mais aussi la générosité des Québécois. Puis ça, je tiens à le souligner. Ils ont été là. Ils ont répondu présent. Les gens avaient plus de sous un peu, moins voyagé, moins... Donc, il y avait un peu plus d'argent pour la philanthropie. Puis, je pense qu'on a bien su les toucher avec le Téléthon, avec toutes nos activités de collecte de fonds qu'on a réinventées. Puis, ils ont été présents. Là. Les Québécois sont tellement généreux. Puis ça, il faut le souligner aussi. Donc, ils nous aiment déjà beaucoup. Puis, ils ont été là au moment où, pour nous, c'était vraiment essentiel pour la survie de la cause aussi. Là.
Puis, il y a eu une belle fierté québécoise. Je pense qu'il y a également une belle fierté pour peu importe la culture dans laquelle que tu étais dans la dernière année. Beaucoup des pays, des provinces... se sont serrés les coudes pour assurer que l'économie locale soit capable de perdurer un petit peu plus. Donc, peut-être qu'également, ça l'a pu avoir un impact de ça aussi. J'aimerais que tu nous dises un petit peu quel est le futur d'Opération Enfant Soleil. Est-ce que vous avez des plans spécifiques pour les prochaines années? Qu'est-ce que vous voudriez attaquer un petit peu plus comme chantier? Je serais curieux de t'entendre là-dessus.
Ben, on commence notre planification stratégique. On devait la réviser l'année passée. En fait, on devait la faire l'année passée, mais avec la pandémie, on a mis ça sur la glace. On s'est fait un plan d'action, là, comme la plupart des entreprises, là, un plan d'action COVID. Mais là, maintenant, on replonge. Mais c'est certain que l'objectif, nous, c'est simple, hein, c'est de toujours aller chercher le plus de revenus possible en minimisant le plus possible des dépenses. Mais je pense que tout le monde va se reconnaître là-dedans. Dans toutes les organisations, c'est un peu ça. Donc, on veut continuer de croître, mais on veut continuer de croître aussi en minimisant toujours ce que ça coûte pour aller chercher cet argent-là, parce que la philanthropie, veut pas, ça se paye aussi. Là, il faut quand même investir des sous. Donc, on veut les tirages. On est rendu très fort là-dedans. La maison, cette année, c'est un record de vente, effectivement. La maison Enfant-Soleil signée Bonneville, mais il y a aussi un passeport de rêve qu'on vient de lancer aujourd'hui, en fait, qui est un tirage d'un voyage, un beau prix aussi à gagner. Puis, on pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire encore davantage parce qu'on a l'expertise maintenant, donc je pense qu'on va pouvoir en faire encore plus. On veut demeurer aussi l'organisation la plus crédible au plan philanthropique au Québec. On est un peu la couche chouchou des Québécois, puis ça, il ne faut pas le perdre de vue, puis on veut conserver ce statut-là. Donc, conserver le lien avec les donateurs, les nouvelles technologies nous permettent de faire aussi toutes sortes de choses différentes qu'on ne pouvait pas faire auparavant, puis on veut miser beaucoup là-dessus. On est en train de revoir toute notre CRM, là, donc, toute notre base de données, c'est parce qu'on a une grosse, grosse base de données, beaucoup de donateurs. Il faut bien l'utiliser. Puis, on investit là-dedans présentement. Donc, c'est un gros virage technologique qu'on est en train de prendre chez nous aussi, mais qui va nous faciliter la vie par la suite. Là. Donc, on veut bien faire atterrir tout ça. C'est l'objectif. Mais on veut avoir... on veut vraiment continuer de croître. Là. C'est ça l'objectif. On a le vent dans les voiles, puis on veut que ça continue.
Ben, c'est le but également. Donc, c'est le but aussi du podcast. Le podcast s'appelle Hypercroissance. Et avant, Julie, de te poser des petites questions personnelles, j'aimerais que tu prennes le temps avec notre audience aujourd'hui de leur dire comment qu'ils peuvent vous aider à croître, comment qu'on peut venir porter main forte aux enfants malades, à l'opération Enfant Soleil. Est-ce que des liens, est-ce que des endroits spécifiques en ce moment où est-ce que les gens peuvent venir faire des donations? J'aimerais que tu prennes le temps de bien l'expliquer à notre audience.
Oui, ben en fait, il y a différentes façons de donner. On peut donner en achetant justement un billet de tirage, soit de la maison, soit de passeport de rêve. Donc, on se donne un peu de chance dans la vie de faire un beau gain, mais en même temps, on donne à la cause. On peut donner au Téléthon qui va avoir lieu en juin l'année prochaine, mais c'est certain, la journée même, mais même n'importe quand dans l'année. Donc, sur le site d'opérationenfantsoleil.ca, tous les détails sont là. On peut devenir parent soleil, donc de faire un don mensuel à chaque mois, en fait, qui permet à l'organisation là, d'offrir des équipements de qualité dans tous les hôpitaux. Donc, ça, c'est un don mensuel. C'est simple, ça se fait tout seul, puis on n'a pas nécessairement à le gérer. Donc, on peut faire ça. Donc, il y a vraiment toutes sortes de façons. On peut organiser une activité, comme je le disais tout à l'heure. On communique avec nous, on va vous aider là-dedans. On est très bon là-dedans, puis on va vous faciliter la vie. Donc, on peut donner dans nos grands chez nos grands partenaires, il y a plusieurs campagnes de financement qui ont lieu par année. Donc, ceux qui vont chez Costco, chez Walmart, chez Family Prix peuvent, entre autres, peuvent donner aussi pendant ces grandes campagnes-là. Il y a Bizou qui fait des petits bracelets à chaque année qu'on peut acheter en cadeau, qui sont magnifiques d'ailleurs. C'est des beaux cadeaux à donner aux gens. Puis, il y a toutes sortes de façons. Puis, sur le site Internet, bien, vous avez toutes ces façons-là. Il y a aussi pour les entreprises, comme je vous disais, la certification philanthropique Entreprise Enfant Soleil qui permet aux entreprises de démontrer qu'ils sont associés à la cause justement et qui s'investissent en philanthropie. Et puis ça, bon, on a une équipe aussi chez nous là, qui peut aider l'entreprise à faire les démarches dans ce sens-là. Donc, c'est une façon aussi de contribuer comme entreprise et de démontrer à quel point on est impliqué dans sa communauté et à quel point on trouve que la cause des enfants malades est importante. Donc, voilà en gros comment on peut aider, mais sky is the limit pour nous. Et si vous avez des nouvelles idées, on est toujours ouvert à les accueillir.
Puis tout ce que tu nous as dit, on peut le retrouver sur votre site web, c'est ça?
Oui, merveilleux. Tout à fait.
Parfait, puis je reviendrai et je te poserai cette fois-ci des petites questions personnelles parce que là, oui, on est dans le volet un peu affaires, on parle d'organisation. Est-ce que tu aimes lire? Est-ce qu'il y a des lectures peut-être qui t'ont inspiré dans tes décisions avec Opération Enfant Soleil?
Ah, ben là, c'est une bonne question. Inspirée dans mes décisions, je sais pas, mais en tout cas, j'ai besoin de décrocher aussi parfois. Puis cet été, j'ai lu la biographie de Michelle Obama, que j'ai trouvée fort intéressante.
Fantastique.
Pour une fille qui a fait de la politique aussi, j'ai trouvé que son approche était très humaine. Ça nous permet de voir l'envers du décor. Puis elle fait avec beaucoup d'humilité aussi tout son parcours qui n'a pas été nécessairement si facile. Hein. Ça m'a beaucoup inspirée, ça, de se relever les manches dans l'adversité. Fait que oui, à la limite, ça peut m'inspirer. Dans ce que je fais au quotidien pour Opération Enfant Soleil. Mais je suis une fille de roman. Moi, j'aime beaucoup m'évader quand je lis. Donc, j'aime beaucoup Elena Ferrante, qui est une auteure italienne, là, avec toute la série de L'Ami prodigieuse. J'ai beaucoup aimé ça. Puis, j'aime beaucoup Haruki Murakami. C'est dur à dire ce nom-là, mais c'est un Japonais qui a écrit Un coup 84, puis Le meurtre du commandant. C'est complètement débridé, là. Mais moi, j'aime ça. Ça me fait m'évader. Puis, c'est des auteurs qui m'ont beaucoup marqué dans la dernière année et demie, je dirais. Là.
Ça aide à décrocher. C'est important de décrocher.
Tout à fait.
Mais j'aimerais également aussi que tu nous dises, pendant, par contre, tes heures de travail, est-ce que tu as une routine spécifique, peut-être même avant, pendant, après? Comment que ça ressemble, là, la routine de Julie Lemieux au quotidien?
Ben, on n'est pas revenu encore au bureau, hein, comme la plupart des entreprises, évidemment. Donc, c'est sûr que la routine a changé depuis que la pandémie nous est tombée dessus. J'essaie le matin, moi, de toujours marcher, courir, marcher. Là, je dirais que je suis meilleure pour marcher que courir, mais je le fais le plus possible le matin pour me grounder. Puis, j'ai passé beaucoup de temps à mon chalet pendant la pandémie. Là, j'ai travaillé à distance de là-bas, puis j'étais dans la nature. Fait que moi, la nature, c'est très important. Donc, j'essaie d'aller faire un petit plongeons dans un bol d'air frais de nature à chaque matin. Puis le soir, je regarde des séries un peu comme tout le monde aussi. Je lis. C'est pas mal ça, mes routines. Puis le jour, ben, on travaille franchement beaucoup. Hein? On se met en ligne là, à 8h30 le matin, puis ça arrête pas beaucoup. Là. Donc, ça reste un enjeu pour tout le monde. Il va falloir trouver l'équilibre entre le travail et prendre le temps, des fois, un peu de décrocher. Là. Mais je trouve que depuis que j'ai un plateau qui peut se surélever là, pour se lever debout, ben puis pendant les réunions, ça a tout changé dans ma vie aussi. Puis je le conseille à tout le monde. Ça permet de garder un équilibre aussi dans. Parce que rester assis, ça n'a pas de sens. Là. Mais je sais que c'est le cas de beaucoup de gens. Là.
Effectivement. Ben, c'est vrai que ça a un peu un effet pervers. Hein. Le travail à la maison, c'est très difficile de sortir de cet environnement de travail-là parce que en 15 secondes, on est reconnecté. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver des bonnes manières de sortir un petit peu la tête de l'eau, de travailler de manière différente parce qu'à la fin de la journée, ça peut devenir assez intense tout ça.
Tout à fait. Tout à fait.
Julie Lemieux, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Merci également du travail que toi et tous les gens chez Opération Enfant Soleil faites. Je trouve que c'est une cause qui est noble, incroyable, fascinante. J'ai énormément d'admiration envers vous. J'espère que d'une quelconque façon, on va peut-être pouvoir aujourd'hui influencer de manière positive les gens qui nous écoutent à venir porter main forte à Opération Enfant Soleil. Nous, chez J7 Média, on va le faire. Donc, on va inviter les gens à le faire également. Est-ce que tu aurais peut-être des choses à rajouter avant que je te laisse filer, Julie?
Ben juste vous dire merci de nous accorder ce temps-là. Je trouve que c'est tellement important. C'est une cause, oui, qui est importante, mais le défi aussi pour Opération Enfant Soleil, c'est d'aller chercher davantage les jeunes, parce qu'on est bien ancré là dans les générations peut-être un petit peu plus vieilles qui sont là depuis le tout début, mais on a aussi le défi d'aller chercher davantage de jeunes. Puis ça nous permet ce genre de podcast-là d'aller chercher aussi une autre génération qui est extrêmement importante pour nous. Puis dire en terminant que comme je vous le disais, c'est une équipe qui est extraordinaire. Fait que je tiens à saluer mes collègues aujourd'hui qui sont d'une grande générosité et qui sont extraordinaires. Le cœur sur la main des gens dédiés puis que j'aime beaucoup. Donc, j'ai une grande chance de pouvoir être leur porte-parole, être leur gestionnaire. Puis, je les aime beaucoup. Donc, je tiens à saluer leur travail incroyable. Et aussi, tous nos partenaires qui ont été avec nous, qui sont avec nous, les bénévoles. On a beaucoup de bénévoles aussi qui travaillent pour nous. Donc, je les salue. Je les remercie du fond du cœur pour être avec nous. Et tous nos donateurs partout au Québec, hein, on est partout. Et puis, ils ont été tellement avec nous à travers cette crise-là que je les remercie également du fond du cœur. Voilà.
C'est tout ce que j'avais à dire. C'est un beau travail d'équipe, tout ça. Travail d'équipe. Merci beaucoup, Julie. C'était très apprécié, la discussion d'aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hyper Croissance. J'espère que l'entretien d'aujourd'hui vous incitera à encourager Opération Enfant Soleil dans les prochains mois. J'ai personnellement l'impression que les entreprises dans les prochaines années ne pourront plus exclusivement avoir une vision de profitabilité avec leur organisation. Aider des fondations comme celle que Julie Lemieux représente ou tout autre organisme charitable risque de devenir un indispensable. Également, continuez à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hyper Croissance.